les associations de femmes populaires. Alors, c'est aux femmes de l'exil que je m'attache aujourd'hui. Alors, avant de venir proprement dire sur cet aspect-là des choses, il faut avoir en tête donc que cet exil, parce que ça va avoir une importance dans la suite de ce que je vais dire, c'est avoir en tête qu'il y a plusieurs phases dans cet exil. Et par exemple, un auteur comme Claudio Boltzmann met en avant la première phase qui est l'émigration massive politique, alors que le Chili n'est pas un pays d'émigration. Cette émigration, essentiellement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, au Canada, en Australie, va représenter à peu près 10% de la population chilienne de l'époque. Ce n'est pas rien. Émigration dont la première phase marque une vie qui est marquée par le quotidien, par le provisoire. On imagine qu'on va revenir rapidement, parce qu'on n'imagine pas à ce moment-là que le régime militaire va durer. Les Chiliens, comme l'expression devenue classique le dit, vivent les valises prêtes. On pouvait dire l'an prochain à Santiago. Bon, c'est une expérience, et là ça va devenir important par rapport à ce que je dirai ensuite, une expérience de déclassement social d'abord, parce qu'on arrive sans boulot. Une expérience de rupture par rapport au mode de vie antérieur. Une expérience de confrontation aux codes culturels qui ne sont pas les mêmes. Un rapport au temps qui n'est pas le même. Un rapport à l'argent qui n'est pas le même. Un rapport à l'espace, aux espaces privés et publics qui ne sont pas les mêmes. Et j'y reviendrai en particulier. L'arrivée sans préparation préalable d'une société dépendante, dite de la périphérie, à une société industrielle dite du centre. Une déstructuration telle qu'on peut parler véritablement de déracinement. Et l'enjeu va être de résister à cette épreuve en mobilisant, on pourrait, selon certains auteurs, qualifier trois types de ressources. Des ressources d'ordre social, se regrouper selon les appartenances partisanes qu'il y avait au Chili, des ressources d'ordre culturel, c'est la capacité à organiser du travail collectif. C'est quand même une spécificité importante de l'émigration et de l'exil chilien que l'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres exils plus tard. Et également la mobilisation de ressources cognitives, socio-cognitives, qui permettent de problématiser la situation vécue. L'engagement politique qui va marquer les exilés, donc dans les différentes sociétés d'accueil, a véritablement un rôle de résilience dans la mesure où c'était l'engagement politique qui donnait sens à la vie quotidienne au Chili et qui va faire le lien entre le passé et le présent de l'exil ensuite. Deuxième phase que l'on peut mettre en avant, à partir des années 80, ben, de fait, le régime militaire reste en place, il s'institutionnalise même, et les exilés chiliens doivent bien constater qu'ils doivent défaire leurs valises, et qu'ils doivent imaginer leur vie dans la longue durée, dans les sociétés d'accueil. Alors, il va y avoir une redéfinition, non pas de l'engagement politique, mais une redéfinition de l'action collective qui va faire émerger des associations communautaires qu'un auteur comme Boltzmann, notamment, qualifie d'antépolitique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'engagement politique au sens militant, traditionnel, des années 70 et début 80 qui est là, tel qu'on l'a tous connu, mais une politisation qui est d'ordre peut-être plus socio-culturel et qui va d'ailleurs marquer le militantisme par la suite, notamment aujourd'hui qu'on connaît beaucoup plus. Alors, c'est un engagement, une action collective centrée plus sur des expériences partagées. Et c'est par exemple la création d'ateliers pour enfants. C'est la création de centres de rencontres latino-américains, hein, parce qu'il n'y a pas que des Chiliens exilés, il y a aussi des Brésiliens, des Argentins, des Uruguayens, des Paraguayens également, tout le Cône Sud certainement, mais il y a plus. Et la création également d'associations de femmes et d'associations féministes. Troisième phase, ce sera la fin de l'exil. Bon, il y a eu des retours d'exilés avant la fin du régime militaire, mais disons, ce que l'on pourrait qualifier la fin de l'exil, c'est à partir du passage à la démocratie, donc où vous avez une bonne partie de Chiliens qui retournent au Chili, les retornados, mais il y a également ceux qui sont aussi en nombre important, qui vont rester, qui ne sont pas à même pour 36 000 raisons de concevoir un nouvel exil. Parce que c'est ça, revenir, c'est un nouvel exil, et qui se découvrent en quelque sorte comme des résidents, et non plus comme des exilés. Alors, moi, je m'attacherai également aux retornadas. Alors, je vous disais, l'expérience de l'exil n'est pas exactement du même ordre pour les femmes et pour les hommes. On pourrait le dire, s'il fallait résumer en deux mots, que l'expérience des femmes exilées est une expérience marginalisée à l'époque. Marginalisée pourquoi ? Parce que l'expérience, en termes de représentation sociale, est avant tout marquée par l'expérience masculine, dans le sens où les personnes majoritairement qui sont sous l'interdiction d'un retour au Chili seront les dirigeants des partis de gauche, les militants des partis de gauche, le plus souvent des hommes. Les femmes suivant le plus souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais le plus souvent leurs compagnons ou leurs pères, etc. Et en plus de ça, les médias font plus référence à l'expérience de ces dirigeants de gauche et d'extrême gauche. Alors, l'intégration des femmes dans la société chilienne dans la première phase n'est pas exactement du même ordre. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles assument leur rôle traditionnel et il s'agit de mettre les enfants à l'école. Donc, il faut apprendre la langue, il faut se confronter beaucoup plus vite au code culturel ambiant, puisqu'il faut pouvoir être en relation avec les différentes institutions étatiques qui permettent de vivre. Il faut pouvoir avoir accès à une protection sociale auquel on a droit dès lors qu'on a le statut de réfugié politique. C'est les femmes qui font ce lien social dans un premier temps. La recherche du logement, la recherche de moyens d'existence. Les femmes vont se socialiser dans la société d'accueil beaucoup plus rapidement que les hommes. Pourquoi ? Parce que les hommes arrivent avec une expérience d'engagement politique extrêmement forte qu'ils vont continuer à mettre en œuvre, parce que c'est ça qui fait sens, évidemment, si on imagine que l'exil ne doit pas durer. S'il ne doit pas durer, l'action politique devient évidemment, au-delà de son aspect de dénonciation de tout ce qui se passe au niveau de la dictature militaire, c'est un élément fondamental d'une identité évidemment politique et culturelle, mais qui permet de faire véritablement sens de l'existence face à une situation de déracinement et de déstructuration. Et donc il y a véritablement une division du travail là-dedans. Donc la politique est omniprésente dans la vie des hommes exilés. C'est la raison de leur exil, c'est la raison de leurs activités dans la société d'accueil. Alors il y a un élément qui, à mon sens, renforce la division homme-femme, non pas au sens conflictuel du terme, hein, mais le partage d'expériences vécues qui ne sont pas du même ordre, tout simplement. Il y a un élément qui renforce cet aspect-là des choses, c'est l'exil dans des sociétés d'accueil marquées par une protection sociale forte. Pourquoi ? Parce que les hommes s'investissant dans un engagement politique fort, les femmes faisant le lien social avec les sociétés d'accueil et pouvant bénéficier d'allocations de par les statuts de réfugiés politiques, l'homme est dégagé en quelque sorte de son rôle traditionnel de pourvoyeur de revenus. En grande partie. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, je n'ai pas dit ça. Mais je veux dire que ce n'est pas la même chose d'être exilé en Espagne à l'époque ou d'être exilé en Suède, puisque c'est un des pays les plus importants pour l'exil chilien, ou bien en Allemagne, ou en Belgique, ou en France. Donc il y a une sorte de libération, entre guillemets, du rôle traditionnel de pourvoyeur de moyens d'existence. Alors, je n'ai pas dit non plus que les femmes ne s'investissaient pas dans l'engagement politique et socioculturel. D'autant que c'est un lieu de, au-delà du politique, c'est un lieu de sociabilité collective fondamentale. Mais il y a une division quand même du travail militant au plan sexué. Aux femmes, la vente des tickets d'entrée, dans les fêtes, d'organisation de solidarité, qui ont marqué les années 70, on s'en souvient tous, la fabrication des empanadas, oui. La dactylographie des déclarations politiques conçues par les hommes. Voilà des indices tout bêtes, mais qui sont réels, d'une division sexuée du travail militant. Alors, évidemment, ça provoque des changements aussi ici dans les familles. Alors ici, je parle des familles des classes moyennes, non pas qu'il n'y ait pas eu des familles de classe populaire, là n'est pas la question, mais les interviews que j'avais faites en 2010 au Chili sur les femmes qui avaient vécu l'exil et puis qui étaient revenues et qui s'étaient intégrées, j'en parlerai après, à l'action publique et politique chilienne, sont des femmes de la classe moyenne. Et je me base également sur une série d'interviews qui ont été faites par différents auteurs, sociologues et politologues sur ces périodes-là, et en particulier d'interviews hommes-femmes dans cette perspective-là. Alors, l'arrivée en exil, ça va impliquer pour ces femmes de la classe moyenne, d'abord, de ne plus avoir une aide ménagère, tout simplement. Chose peut-être que les classes moyennes occidentales ne connaissent déjà plus tellement, en tout cas pas de la même manière. Alors il faut concilier la participation à la sphère publique, cet engagement politico-culturel, peut-être plus culturel pour les femmes et politique plus pour les hommes, avec le fait de devoir s'investir plus dans la famille, puisqu'on n'est plus dans une famille élargie comme précédemment. On passe à une famille nucléaire. On ne peut plus compter sur l'aide des parents, des grands-parents, des tantes, des cousines, etc. Donc, face à cela, plusieurs auteurs vont distinguer plusieurs cas de figure dans les couples. Il y a des couples où c'est la carrière militante ou professionnelle du mari qui est mise à l'avant-plan, mais c'est plutôt des cas rares. Il y a des couples qui cherchent à reproduire le mode de vie qu'il y avait au Chili, mais c'est impossible. Il y a des couples dont les rôles commencent à se flexibiliser, chacun à tour de rôle ou simultanément, pouvant faire part et réaliser leurs projets respectifs. Et puis, il y a bien sûr les couples, et ce n'est pas rare, où ça fait clash, et ça se solde par des séparations et par des divorces. Les femmes voulant peut-être plus s'investir dans la vie professionnelle et familiale, les hommes plus dans l'engagement politique. En tout cas, les hommes et les femmes vont petit à petit, à partir de cette deuxième phase, lorsque le traumatisme commence à être dépassé, commencent à s'investir dans, pas toutes bien sûr, mais un bon nombre d'entre elles, et en particulier en France et en Suède, à s'investir dans des mouvements féministes existants et à créer elles-mêmes des associations de femmes exilées qui vont entrer en solidarité avec le féminisme de l'époque qui commence à réémerger. On est dans la période d'après mai 68 et dans tous les pays occidentaux, le féminisme est en train de réémerger et dans certains pays, être l'objet véritablement d'une institutionnalisation. Ce qui est moins le cas en France, mais beaucoup plus le cas dans les pays nordiques. Donc, une brèche dans le maternalisme traditionnaliste et dans le machisme. Donc, la construction des féminités et des masculinités sont en train de se restructurer. Et la figure type du militant, axée sur une figure finalement virile, est complètement désacralisée, d'autant plus désacralisée que déjà elle va commencer à l'être dans la société globale après mai 68, et elle va l'être d'autant plus que ces femmes vont s'insérer dans les mouvements féministes et participer à la transnationalisation du féminisme. Et au fond, certaines d'entre elles vont se trouver en porte-à-faux avec les stéréotypes sexistes qui voudraient qu'une femme de gauche, qui a perdu son mari ou son compagnon ou son père à cause de la torture, de l'emprisonnement, soit la veuve d'eux. Et il y a un ouvrage tout à fait passionnant et intéressant de Carmen Castillo, qui était la veuve de Miguel Enriquez, le dirigeant du MIR, qui montre très bien à quel point c'est difficile de sortir de ce rôle-là et d'avoir une existence propre, une existence autonome et en n'étant pas la femme d'eux. Donc on peut se poser la question, en tout cas certains auteurs se la posent, est-ce que l'exil n'est pas le territoire de liberté des femmes ? Et effectivement, on a une privatisation donc de la famille qui permet donc une famille nucléaire qui s'autonomise par rapport à son environnement social, par rapport à ce qui se pratiquait au Chili à l'époque, et qui fait que les femmes entrent ou non en contact avec des mouvements féministes, elles ne sont pas sous l'emprise d'une famille élargie. Et donc les capacités d'action autonome sont évidemment beaucoup plus grandes, puisqu'il n'y a pas à négocier éventuellement de projets personnels. Alors, un certain nombre d'entre elles retourneront au Chili, ce seront les retornadas. Quand elles retournent encore sous la dictature, c'est véritablement le saut dans le vide. Parce que, un, il faut trouver du travail et du logement. Et pas dans n'importe quelles conditions. Parce que trouver un emploi dans la fonction publique, il n'en est pas question. Trouver un emploi dans le secteur privé, c'est pas beaucoup mieux, puisqu'il y a des listes noires qui circulent et les trous dans les CV, bah, ils disent bien ce que ça veut dire. Restent les ONG. Des ONG de défense des droits de l'homme ou des ONG de femmes ou féministes qui ont été soutenues, à bout de bras d'ailleurs, au début, par la coopération internationale, notamment belge, française, suédoise et allemande. Canadienne également d'ailleurs. Et donc finalement ces retornadas trouvent un tremplin d'insertion professionnelle à travers les ONG. Et c'est le moment d'ailleurs où le féminisme international et transnational s'ONGise de plus en plus. Passe de l'aspect mouvement à l'aspect d'institutionnalisation à travers une série d'ONG, et puis après il y aura d'autres phases d'institutionnalisation à travers l'établissement de ministères de droits de la femme, en particulier dans les pays latino-américains, et bien plus en avance à certains égards que dans les pays européens. Mais revenons à nos retornadas. À partir du moment où on a un passage à la démocratie à partir donc des années 90. Le Chili, par rapport à l'importance de récupérer une légitimité internationale, et ici je parle par rapport aux droits des femmes, le Chili va ratifier la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, qui a été signée à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1979, et va instaurer, de manière très conflictuelle, parce que la droite est quand même toujours là, le CERNAM, c'est-à-dire le Service national de la mujer. Ce n'est pas un ministère à part entière du droit des femmes, mais ce sera une agence étatique qui prend en charge les droits des femmes. Et alors,
évidemment, il n'y a pas de... Une crée, il y en a une ici.
Moi, j'aime bien encore les tableaux et les crées. Je ne suis pas très ordinateur. Ces femmes retornadas, elles vont se trouver dans ce que l'on peut appeler... ce que moi j'appelle le sens de l'action féministe par rapport à une série conseils dont je passe les détails ici. Vous avez l'État avec le CERNAM. Vous avez les ONG féministes ou de femmes ou des ONG qui travaillent de manière indirecte sur le droit des femmes. Je pense par exemple à la Fondation Ideas qui n'était pas une ONG féministe mais qui se préoccupait, qui par exemple organisait des cycles de formation importantes sur la citoyenneté, et en particulier la citoyenneté des femmes. Ou bien Oxfam. Et puis, ces femmes, ces retornadas, elles ont également vécu une insertion professionnelle à deux autres niveaux, qui sont des centres d'études sur les femmes dans les universités, dont le premier a été créé sous la dictature, qui était le Cercle de Estudios de las Mujeres, qui a été créé par l'Académie Humanismo Cristiano, qui était, pour le dire très rapidement, un organisme universitaire qui était la coupole protégée par l'archevêque de Santiago, qui permettait aux dissidents, aux opposants du régime militaire, aux intellectuels de trouver un espace. Et dans cet espace-là a été créé un centre d'études sur les femmes qui provenait d'associations féministes qui s'étaient créées sous la dictature. Bon, mais avec le passage à la démocratie, vous allez avoir l'instauration dans les différentes universités latino-américaines en général et chiliennes en particulier de centres qui porte sur les droits des femmes. Et puis vous avez un autre pôle qui est la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine, qui va engager des femmes qui viennent des ONG ou qui sont passées au CERNAM ou qui sont dans l'académie, mais le OU n'est pas un OU exclusif. C'est des engagements soit en tant que fonctionnaire international, soit des engagements comme de consultance. Et en fait, vous avez véritablement une circulation des élites féminines entre ces quatre pôles. Et certaines femmes cumulent les quatre fonctions. Alors, ce qui est intéressant, j'ai encore certainement cinq minutes.
Oui.
Voilà. Ce qui est intéressant, et pour le mieux dit, quelle est la forme de ces retornadas au féminisme chilien, donc qui existe, c'est pas elles qui ont créé ce féminisme chilien, mais elles apportent un discours d'individuation, d'émancipation au sens de rupture, en tout cas symbolique, mais symbolique n'est pas du vent, par rapport au maternalisme, et mettre sur la table deux thèmes fondamentaux du féminisme et qui sont nouveaux au Chili à l'époque. C'est la question des droits reproductifs d'une part et du divorce. Et là, ça, c'est des questions qui touchent à la politisation du corporel. Le divorce, c'est la séparation des corps. Et les droits reproductifs, ben, c'est notamment la question du droit à la contraception, du droit à l'avortement médical fait dans des conditions médicales correctes. Et ce seront le premier président socialiste de la concertation, Ricardo Lagos, qui va poser le problème de divorce, enfin non, c'est pas posé parce qu'il a été posé avant, mais qui va faire passer la loi sur le divorce, mais comme il y a ces partis de droite, la Rénovation Nationale et l'UDI, qui s'y opposent, vous l'imaginez bien, ben, on aura une loi de divorce qui est un signe de loi divorce faux, puisque le divorce que l'on connaît à l'heure actuelle en Europe. Et sur la question des droits reproductifs, aussi bien la question de l'éducation sexuelle que la question de la pilule du lendemain n'a pas pu être véritablement résolue, étant donné toujours le poids de l'Église catholique qui a ses relais au niveau des partis de droite. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire, puisqu'il faut être rapide, sur ces retornades, c'est qu'elles ont été les passeuses d'idées nouvelles et qu'elles ont amené avec elles leur réseau forgé dans les pays, dans les sociétés d'accueil, et qu'elles ont participé de manière extrêmement importante à la transnationalisation du féminisme chilien et latino-américain de manière plus générale, et que ce faisant, elles ont alimenté ce que les politologues appellent les qualités de la démocratie, dont les principales valeurs sont quand même la liberté et l'égalité. Je vous remercie.
Dernier orateur. Voilà, et comme nous avons commencé un petit peu plus tard, on peut quand même prendre, je pense, 5 ou 10 minutes de plus. C'était prévu de finir à 12h30, sans qu'on peut finir vers 12h40 ou plus tard. Cela vous convient, monsieur Christian?
C'est parfait.
Oui? Ok, merci.
Donc, après cette perspective sociologique, je veux maintenant adopter une perspective plutôt historique et politique sur l'histoire des mouvements de solidarité qui se développent ici en Belgique depuis 1973, durant les années 70 et 80 pour le Chili. Donc on voit que le Chili, comme partout en Europe, devient un sujet médiatique et politique important ici dans la société belge dans les premières semaines et mois après le coup d'État par le général Pinochet. Je pense que pour comprendre l'évolution qui va caractériser la solidarité avec le Chili pendant plus de 16 années, il faut inclure le rôle actif des exilés chiliens. Bon, il y en a ici dans la salle, et si je demande, ou si je parle avec des exilés chiliens, et je demande, est-ce que vous avez joué un rôle important dans la solidarité, tout le monde va répondre oui, évidemment. Mais on sait que les historiens européens des mouvements de solidarité ne sont pas des exilés. Ce sont des historiens sociaux qui ont surtout focalisé sur les idées, les actions des activistes européens. Et spécifiquement, il y a beaucoup d'attention pour ce qu'on appelle la nouvelle gauche. La nouvelle gauche, c'est une tendance, par exemple, on a Jean-Paul Sartre qui découvre le tiers-monde comme un espace, comme une source d'inspiration pour ses actions. Et cette nouvelle gauche n'aime pas la démocratie sociale, ni le communisme, et va essayer de développer une alternative. Et c'est pour cette raison que l'unité populaire italienne était si importante pour la nouvelle gauche. Mais ce qu'on voit est en réalité que la mobilisation pour le Chili était surtout une affaire de la vieille gauche. On voit que les syndicats socialistes, mais aussi les syndicats chrétiens, et le Parti social-démocrate belge et le Parti communiste vont jouer un majeur rôle dans la mobilisation pour le Chili, plus que la Nouvelle Gauche. Pour comprendre l'évolution des mouvements de solidarité en Belgique et en Europe, il faut, je crois, se rendre compte du rôle actif de l'exil chilien en Europe et dans les autres continents, pour comprendre qui sont les personnes clés, les personnages clés dans les mouvements de solidarité. Et il faut aussi adopter une perspective transnationale. Ça veut dire qu'il faut se rendre compte que le Chili était un sujet qui mobilisait non seulement en Belgique, mais partout en Europe et en monde. Il y a, par exemple, et je ne suis pas le seul à dire ça, mais aussi une nouvelle génération des historiens des droits de l'homme qui portent leur attention sur le rôle qui a joué les partis communistes européens, le mouvement communiste international, dans la création d'un régime international des droits de l'homme. Pour le Chili, ça veut dire, par exemple, qu'il y a un rôle important pour le Conseil mondial de la paix. C'était une organisation internationale fondée à la fin des années 40 qui a joué un rôle important dans la mobilisation contre la guerre au Vietnam, mais qui était aussi important pour la mobilisation dans les années 70. C'est important de dire ça, dans les années 70, pour le Chili. On voit que le Parti communiste belge va jouer un rôle important dans la mobilisation dès les premières semaines après le coup d'État. Pourquoi ? Évidemment, parce qu'il y avait l'inspiration de l'unité populaire, mais il y avait aussi la stratégie que l'unité populaire était une source d'inspiration pour un rapprochement avec le Parti social-démocrate ici en Belgique. Et en addition, on voit que le Parti communiste va profiter de ces réseaux internationaux importants avec le Conseil mondial de la paix. Et le Conseil mondial de la paix va être important pour donner des liens, des réseaux par lesquels la mobilisation pour le Chili va se développer. En septembre 1973, il y avait la première conférence pour le Chili, la première conférence internationale qui était organisée à Helsinki. C'était la première fois que Isabelle Allende, mais aussi des autres figures importantes de l'unité populaire en exil, sont donné la parole devant une audience globale. Et il y avait aussi une délégation belge là, c'était Isabelle Blum, la présidente de l'Union belge, pour la paix, pour la défense de la paix, et Jan de Brouwer sont donc deux membres du Parti communiste belge. Et on voit que les relations établies pendant cette conférence par ces deux personnes vont expliquer pourquoi le Parti communiste belge va jouer un rôle important pour la mobilisation pour le Chili en Belgique. Parce qu'il y avait évidemment le fait que la plupart des activistes n'avaient pas l'information concernant ça. J'ai travaillé dans les archives, par exemple, de la Confédération internationale des syndicats libres, une internationale social-démocrate, et j'ai vu que jusqu'à début janvier 1974, la CIOS ne savait pas ce qui s'est passé à ce moment au Chili. Il n'avait pas d'idée de l'opposition là-bas, de ce qu'elle pouvait faire pour aider les exilés chiliens, l'opposition contre Pinochet. Et c'est le Parti communiste belge qui avait les liens, mais aussi déjà les premiers comptes bancaires pour aider concrètement les exilés chiliens, l'opposition chilienne. Ça fait que le Parti communiste belge va devenir rapidement une source d'inspiration et une organisation clé pour la mobilisation pour le Chili. Mais on voit en généralement que dans les premières semaines et mois, la solidarité pour le Chili est avant tout un mouvement de contestation au niveau belge. Et on voit aussi que le Chili n'est pas un thème important en comparaison avec les autres sujets. À cette époque, donc en automne 1973, il y avait l'importance de la campagne contre la dictature au Brésil. En novembre 1973, il y avait Brésil Export à Bruxelles. Et on voit que la mobilisation pour le Brésil Export devient plus importante et va éclipser la mobilisation et l'intérêt pour le Chili. Il y a les slogans qui disent le Chili et le Brésil, les mêmes dictatures, les mêmes solidarités, mais on sait évidemment que ce ne sont pas les mêmes solidarités ni les mêmes dictatures. Et le Brésil Export va éclipser la mobilisation pour le Brésil, pour le Chili, parce que c'est un sujet plus proche des activistes. Le Brésil, j'avais une photo, mais le Brésil était plus proche, c'était à Bruxelles. Et le Chili, donc Allende était mort, le Chili était loin de la Belgique, donc le Brésil, la mobilisation contre le Brésil Export était plus importante que la mobilisation pour le Chili. Et j'ai vérifié les chiffres dans les archives et dans les journaux belges. Bon, la mobilisation pour le Chili rassemblait quelques centaines de personnes ici en Belgique dans des démonstrations, mais c'était tout au début de la mobilisation. Mais, et c'est une évolution importante à noter, dès le début de 1974, on va voir une évolution et ce que je veux appeler le facteur chilien, l'agence chilienne de la mobilisation pour le Chili en Belgique. Bon, on a parlé déjà des exilés, des réfugiés ici en Belgique. Évidemment, ils étaient importants. Ils étaient une source pour apporter des soutiens pour des nouveaux comités qui se sont créés ici en Belgique pour aider ces réfugiés. Mais je crois que l'exil international organisé par des nouvelles organisations chiliennes sont plus importantes pour la mobilisation. Et je pense que l'exemple de Chile Democratico est très important pour comprendre ça. Qu'est-ce que c'est Chile Democratico? Après le coup d'État, les leaders de l'unité populaire se sont réfugiés partout dans le monde, mais ils avaient une attention particulière pour l'Europe occidentale, surtout l'Italie. C'était le pays avec le parti communiste le plus grand de l'Europe occidentale, et ils ont créé à Rome Chile Democratico avec le but d'organiser et de coordonner une mobilisation effective contre Pinochet. Et on voit partout dans l'Europe les premières délégations, par exemple par Homero Julio, Julio Valderrama, etc., on voit pérégriner ce cette délégation de Chili démocratique ou partout dans le monde, et aussi ici en Belgique. Et la délégation ici en Belgique a contacté quelques personnages clés et quelques acteurs clés dans la mobilisation pour créer un mouvement bien coordonné, bien organisé et structuré avec un comité national chili. Et c'est en février 1974 que le comité Europe-Amérique latine, qui a été fondé pendant les campagnes pour le Brésil en 1970, qui va être l'organisation clé pour la création d'un comité national chili, avec par exemple aussi Pierre Gallon, mais aussi avec la présence des membres du Parti communiste ou d'Isabelle Blum, avec des membres d'Amnesty International, etc. Et on voit que la fondation d'un comité national chili ici en Belgique va structurer la mobilisation et va aboutir à une mobilisation qui est plus grande qu'avant. On voit que des nouveaux comités, on voit que l'essor des comités, l'essor des mouvements de solidarité se développa ici en Belgique après l'établissement de ce comité national Chili, parce que ce comité facilitait information, des courants d'information, facilitait l'aide concrète aux réfugiés chiliens. Par exemple, le comité national Chili utilisait l'information provenant du Rome, du Chili Democratico, pour organiser ici l'aide aux réfugiés belges. Donc, c'est surtout, et c'est un paradoxe, c'est surtout dans l'année 1974 que la mobilisation ici en Belgique pour le Chili se développa et devient une mobilisation assez grande. C'est donc quelques mois après le coup. Mais on voit que la mobilisation pour le Chili va être dans un déclin rapide à cause, évidemment, la polarisation interne dans les exilés chiliens, mais aussi, et c'est un autre changement important, par le langage de droit de l'homme. On voit que depuis 1975, le langage de droit de l'homme devient plus important dans la mobilisation et va devenir un atout pour la mobilisation parce que, évidemment, c'était moins politique que la solidarité politique avec les partis politiques chiliens, mais avait comme résultat que les activistes locaux avaient moins de moyens pour s'engager pour le Chili, parce qu'il y avait des ONG comme Amnesty International, le Comité National Chili, qui vont focaliser leurs actions surtout au niveau des organisations internationales comme les Nations Unies ou sur l'action par des ONG internationales ou des organisations internationales comme le Conseil mondial de la paix qui va organiser ici en Europe, dans des villes symboliques, par exemple à Athènes, la dictature en Grèce, par exemple à Madrid, la fin de la dictature de Franco, qui vont organiser des conférences et un mouvement international focalisant sur la question des droits de l'homme. Et donc, moi, focalisant sur la politique, sur la solidarité politique. la mobilisation à la fin des années 70 en Belgique va connaître un nouveau changement important à cause de la polarisation interne entre les Chiliens ici exilés en Europe, mais aussi grâce à des nouvelles connexions et la nouvelle opposition qui va se créer, se développer au Chili et qui est pas donc ce sont les syndicats chrétiens, les syndicats social-démocrates au Chili qui vont devenir les acteurs les plus importants dans la protestation domestique face au général Pinochet. Et ça va influencer aussi la mobilisation pour le Chili ici en Belgique, parce qu'il y a dans les années 80 une altération des idées, des conceptualisations de la solidarité pour le Chili ici en Belgique et en Europe, parce qu'on voit que dans les années 80, la solidarité avec le Chili devient une solidarité syndicale. Je sais qu'il y avait quelques journées, la semaine dernière, à Chili, une conférence internationale sur les dimensions globales de la solidarité avec le Chili. Mais au Chili, on n'aime pas parler de la solidarité dans les années 80 parce que c'était une solidarité syndicale qui était développé principalement par les syndicats social-démocrates ici en Europe et la démocratie chrétienne ici en Europe. Et je pense qu'il est intéressant pour analyser cette évolution de l'activisme pour le Chili dans les années 80, parce qu'on voit comment le sujet de Chili est lié aux autres sujets importants, et notamment avec la mobilisation pour le Solidarność. Solidarność, bon, il y a beaucoup de Chiliens qui n'aiment pas le Solidarność, c'est trop catholique, c'est trop soi, mais on voit que Solidarność devient un exemple important pour la gauche chilienne dans les années 80. Ici à Bruxelles, on avait le comité syndical Chili, qui était guidé par Luis Menezes et qui a été fondé à l'initiative de Manuel Busto et qui était important pour l'organisation des actions syndicales pour le Chili dans les années 80. Et le bureau de Menezes était presque le même groupe que Mileski, c'était le représentant de Solidarność ici en Belgique et en Europe. Et donc, on voit une collaboration étroite entre un Chilien et le mouvement syndical chilien et le mouvement Solidarność en Pologne. Pourquoi? Évidemment, parce que Solidarność était dans les pays européens, occidentaux, plus importante, un sujet plus important que le Chili dans les années 80. Et on voit comment des gens comme Menezes, mais aussi la coordination nationale syndicale au Chili, vont être attractés par la résonance de Solidarność et aussi par la résonance du langage des droits de l'homme. Il y a aussi un lien à cette époque, par exemple, avec la lutte contre l'apartheid. Donc, on voit comment la mobilisation s'est fondamentalement changée au cours des années 70 et évolue d'une solidarité politique anti-impérialiste vers une solidarité qui embrasse le langage des droits humains, qui va être moins politisé, mais qui ne peut pas imposer beaucoup de gens ici en Belgique, et qui restera surtout quelque chose qui est fait par les ONG internationales comme Amnesty International ou les syndicats belges. Merci.
Voilà, donc je remercie les intervenants ici et Radio Campus aussi. Je vois que madame souhaite poser une question.
Oui, je ne voudrais pas poser une question. Je suis très interpellée par l'analyse de madame Marthe Carolet. Simplement quelques petits trucs sur l'histoire de femmes chiliennes ici. Et j'ai senti qu'on a réduit dans l'analyse de madame Marthe Pereira, on a réduit le rôle des femmes en exil à la Saint-Panas et au service des enfants.
Non, je n'ai pas réduit.
Parce qu'elle n'a pas mentionné l'organisation des femmes qui se venaient ici en Belgique. Avant les années 80, les femmes nous sont organisées indépendamment du parti politique et indépendamment des hommes. Et dans les années 75. Je ne pourrais pas parler longuement de ça, mais on n'a pas le temps. Mais aussi, je voulais parler aussi de retourner à moi. Je suis une retournée. Je suis pour le moment de passage en Belgique. Et au moment où les femmes, dans l'année 87, à la fin des années 80, quand on rentre au Chili, l'organisation des femmes, les organisations autonomes des femmes qui étaient déjà, vous avez commencé dans les années 80 à demander des femmes quoi. Donc je peux mentionner une énorme quantité des organisations qui étaient des organisations de femmes autonomes et qui à l'époque luttaient déjà pour les droits des femmes.
Je l'ai dit.
Oui, et pour tout ce qui concerne la sécurité des femmes. Et donc, c'est ça que je voulais relever. Et l'histoire de Sernam aussi. Le Sernam a existé grâce à l'organisation des femmes, le Service national de la femme, et la plupart des femmes qui ont travaillé dans les ONG, ils sont allées travailler au Sernam. La plupart. Quelques femmes qui sont allées travailler à la CEPAD. Mais certainement, je voulais ajouter un tout petit peu à ton analyse, Bérangère, on se connaît, mais j'ai senti très fort ça. Et il n'y avait pas de manialisme, il n'y avait pas de maternalisme de l'organisation des femmes, tant en exil ici en Belgique qu'au Chili dans les années 80.
J'ai vu que M. Garcès souhaitait aussi dire quelque chose.
Oui, je voulais écouter la plus grande des deux interventions qui sont celles de en effet, ce que vous êtes dit. La conférence de Helsinki que vous avez donnée, je pense, en 2013, à laquelle j'ai participé, c'était la première fois depuis la rupture entre la deuxième et la troisième internationale, c'est que les socialistes et les communistes se réunissaient autour d'un sujet avec une perspective commune. Donc, la première manifestation de solidarité avec contre le coup d'État au Chili et avec la démocratie et la transformation économique vers les pauvres. Là n'était pas à ce moment-là une décision qui s'appelle la guerre. La représentation chilienne était à la seule réunion, moi-même, bien entendu, parce que j'avais invité à prendre la parole. Le Parti socialiste était représenté à ce moment par la plus haute personnalité du comité politique en exil, c'était M. Benítez, ancien ministre de la Vivienda, des bâtiments, du logement, ministre du logement, et du Parti communiste, par un membre du bureau politique, qui était une taille bon, également avec. Ce qui concerne la création en Italie des Chile aussi cette deuxième manifestation de la projection des options stratégiques internationales et internes. Et c'est d'éviter toute conflit avec l'Église catholique chilienne. Ce qui fait que le Vatican, en particulier, n'a pas sa figure. Et la démocratie chrétienne, gouvernement italien en ce moment, a rompu une relation avec le Chili. Donc, lorsque le Chili démocratique s'est installé à Rome, c'était le seul pays de l'Europe occidentale qui n'avait pas de relation diplomatique avec la dictature. Troisième dimension concernant le droit de l'homme, justement rendu par vous, la première fois que les Nations Unies ont créé une commission d'enquête sur la violation des droits de l'homme, et en particulier les disparitions forcées, ça a été par rapport à ce qui s'est passé au Chili. Et le premier rapport d'un rapporteur de la Nations Unies est cassé, à la chirurgie
italienne,
qui a remarqué dans son rapport, un rapport très important de 1976, qui est peu cité, c'est l'interaction entre les méthodes de répression de la dictature et les compagnies multinationales dans la surexploitation des travailleurs chiliens à partir des coups d'État. Et quatrième dimension, qui va se trouver un bon data, c'est que vous avez dit, la porteur des droits de l'homme, lorsque j'ai engagé l'action judiciaire contre le général Pinochet en Espagne en 1996, et qui a porté à son arrestation à Londres, par ma demande également deux ans après. Donc, c'est le mouvement des années 70-90 associant ce qui s'est passé en Chili avec le mouvement international pour les droits de l'homme, a joué un rôle capital.
Voilà. Messieurs, madame, je vous remercie. On me fait signe qu'il faut arrêter parce que je pense que vous avez quand même envie de vous nourrir avant de revenir ici à la session qui recommence à 2h.